Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, bonjour à tous. On va ouvrir notre Bible et on va aller à la découverte d'un personnage. Si je vous parle d'Éhude, est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous lisez son histoire tous les jours, hein, je suppose. Voilà. Alors, on va prendre dans le livre des Juges, on va aller à la découverte de cette histoire assez particulière, singulière, l'histoire d'Éhude et ses secrets. Parce que c'est un homme qui avait des secrets. Alors il va nous les livrer ce matin. On va le faire parler. Donc, Juges, chapitre 3, s'il vous plaît. Et à partir du verset 12, Juges, livre des Juges, chapitre 3, verset 12. Alors, âme sensible, abstenez-vous. Parce qu'il y a quand même dans le texte des choses qui sont assez particulières. Je préfère vous le dire. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel fortifia Eglon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'il avait fait ce qui déplaît à l'Éternel. Eglon réunit à lui les fils d'Ammon et les Amalécites, et il se mit en marche. Il bâtit Israël et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Eglon, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhude, fils de Guéra, benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Eglon, roi de Moab. Éhude se fit une épée à deux tranchants, longue d'une coudée, et il la ceignit sous ses vêtements au côté droit. Il offrit le présent à Eglon, roi de Moab. Or, Eglon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qui l'avaient apporté. Il revint lui-même depuis les carrières, depuis près de Gilgal. Et il dit au roi, « J'ai quelque chose de secret à te dire. » Le roi dit, « Silence. » Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Éhude l'aborda comme il était assis seul dans la chambre d'été. Et il dit, « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Eglon se leva de son siège. Alors Éhude avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame, et la graisse se referma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. C'est terrible. Mais on ne va pas s'arrêter là-dessus. Éhude sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute, et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent, et voici les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent, sans doute, il se couvre les pieds dans la chambre d'été. Ils attendirent longtemps, et comme ils n'ouvraient pas les portes de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent, et voici, leur maître était mort, étendu par terre. Pendant qu'ils s'attardaient de la sorte, Éhude prit la fuite, dépassa les carrières et se sauva à Séra. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne et il se mit à leur tête. Il leur dit, « Suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. » Ils descendirent après lui, s'emparèrent des guets du Jourdain vis-à-vis de Moab et ne laissèrent passer personne. Ils bâtirent dans ce temps-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes, tous vaillants, et pas un n'échappa. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut en repos pendant 80 ans. Voilà, que Dieu nous bénisse à travers sa parole. Ça va? On continue. Eh oui, il y a des choses qui sont quand même assez... Eh oui, mais c'est comme ça. Vous avez remarqué avec moi que l'Éternel, c'est la première phrase qui me vient, qui m'interroge, l'Éternel fortifia Eglon, roi de Moab. Alors là, c'est quand même quelque chose d'étonnant. C'est quand même d'assez étrange que le Dieu d'Israël fortifie les ennemis d'Israël. C'est bizarre cela. Mais vous avez compris, parce que c'est aussi écrit, c'est que la cause de ce retournement de situation, eh bien, ce sont les désobéissances d'Israël. Israël savait ce qu'il fallait faire, mais il ne le faisait pas. Le peuple d'Israël était un peuple averti, et puis, petit à petit, eh bien, il prenait des libertés. Et c'est vrai qu'il y a eu des grands hommes qui sont apparus pour conduire le peuple, on pourrait dire des princes. Je pense à Moïse, je pense à Josué. Et puis à ceux qui ont suivi un petit peu là la conduite et l'autorité spirituelle de ces grands hommes de Dieu. Et au fur et à mesure que les générations passent, il y a un amoindrissement dans la vie spirituelle, dans l'attachement aux paroles de Dieu et aux commandements de Dieu. Et on en arrive dans le livre des juges qui va durer une période très très longue, hein, près de plus de 400 ans. On l'a appelé le Moyen-Âge d'Israël, hein, période d'obscurité, période très sombre. Et là, eh bien, le peuple va véritablement dégrader sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan moral, sur le plan surtout spirituel. Et nous voyons que finalement, ce roi ennemi d'Israël, qui n'est autre que Eglon, eh bien, roi de Moab, va se mettre à faire une coalition avec d'autres nations telles que Ammon et puis les Amalécites. C'est terrible hein, quand les choses se passent ainsi. Mais vous savez que Moab, c'était déjà une épine pour Israël. Ammon, c'était une épine. Vous savez de qui ils sont descendants ? De Lot. Avec tout ce qui s'est passé au chapitre 19 et au chapitre 20 du livre de la Genèse. Et là, eh bien, ils vont faire un front commun pour châtier Israël. Et ça, c'est permis par Dieu, tout simplement. Permis par Dieu. On a remarqué avec moi que dans notre texte, Ehud est un gaucher. Alors, je ne sais pas s'il y a des gauchers parmi nous. Peut-être. Hein. On a souvent contrarié les gauchers. On leur a dit, eh bien, il faut écrire avec la main droite, parce que c'est comme ça. Alors, je ne sais pas, ça donne des résultats, il paraît assez particulier. Alors, lui, il est un gaucher. On appelle ça un ambidextre. Voilà. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui peut se servir de main, mais lui, il était franchement à pouvoir se servir que de la main gauche. Et il nous est précisé que cet homme était fils de Guéra. Alors c'est intéressant de s'arrêter sur les mots brièvement, parce que ça nous éclaire quand même. Fils de Guéra. Un Guéra, si vous regardez peut-être à la fin de votre Bible, vous avez la table des mesures, des poids, des capacités. Et un Guéra, c'est la plus petite unité de mesure, donc de poids, et c'est un nom qui signifie celui qui ne fait pas le poids. Ah! C'est comme cela que les choses se sont présentées. En d'autres termes, son nom, fils, le nom de son père, voulait dire celui qui ne fait pas le poids, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut se prévaloir de sa propre force, de sa propre justice, de sa propre capacité, et ni de ses mérites. Il ne fait pas le poids. Humainement parlant, on peut dire qu'il ne fait pas le poids, simplement. Donc, Ehud, fils de Guéra, devait tout à la grâce de Dieu. Et ça, c'est important de le dire. Fils, donc, de cet homme portant ce nom, eh bien voilà, il ne pouvait se reposer que sur une chose, tellement important, parfois souvent méprisée, mais la grâce de Dieu. Et puis, il y a une autre signification du nom Guéra, je poursuis. Cela veut dire, tout simplement, grain, une graine, une semence, en quelque sorte. Et l'on se souvient, si l'on veut prolonger la réflexion, du grain de Sénévé dont Jésus nous enseigne et qui est l'emblème de la foi et de son développement aux proportions infinies. Donc vous voyez un petit grain qui ne fait pas le poids, si vous voulez, mais qui a le principe de la vie en lui-même et surtout le principe de la foi. Et ça c'est vraiment à souligner ce matin, grain de sénevé, nous dit Jésus, que si nous avions eh bien, la foi gros comme un grain de sénevé, nous serions capables de transporter des montagnes. Imaginez-vous ce que ça peut faire. Hein. De déplacer des sycomores, il n'y en a pas beaucoup par ici. Hein. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, c'est l'image et c'est l'idée que nous devons retenir de la signification de son nom. Éude, malgré peut-être la déficience que porte son nom, eh bien, est pourtant choisi par Dieu. C'est Dieu qui va le choisir, qui va le mettre à part. Et pourtant, c'est quand même assez curieux que Dieu choisit des gens qui ne font pas le poids, des gens qui ne sont rien. C'est peut-être là le défi profond, le défi véritable de Dieu. Mais il avait un secret. Ce juge en Israël avait un secret. Pour être un homme en devenir, un homme puissant et victorieux, mais pour une raison, par l'Esprit de Dieu qui l'avait appelé. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder aux apparences. Pour ça que nous devons nous garder de porter des jugements hâtifs, hein, ne juger de rien avant qu'il ne soit temps, nous dit la parole de Dieu. C'est Paul qui le dit. Et par l'Esprit de Dieu, il va devenir véritablement l'homme que nous allons découvrir avec ses secrets. Ses secrets de victoire, ses succès, non pas pour lui, mais pour Dieu et pour la nation d'Israël, pour la délivrance de la nation d'Israël. Vous connaissez cette parole, je la cite, elle est dans Zacharie, au chapitre 4, il est dit ceci. « Ce n'est pas ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. » Et aujourd'hui, nous avons besoin encore de marquer les choses, et de le dire encore à l'Église, que ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre puissance, mais par l'Esprit de Dieu dont nous devons donner la prééminence, avant tout à la vie spirituelle, à la vie de l'Esprit, au milieu de nous et en chacun d'entre nous. Même si nous appelons Éude, ce qui m'étonnerait parce que je connais vos prénoms à tous, mais toujours est-il que peut-être, au fond de votre cœur, vous êtes des Éude. Alors on va découvrir les secrets. Le premier secret, c'est la force spirituelle puisée dans la louange à Dieu. Écoutez bien. Son nom à ce juge est révélateur de cette vérité, je le rappelle, la force spirituelle puisée dans la louange à Dieu. Éude est la contraction du mot ou du nom Abihud, Éude, Abihud. Et cela veut dire dont la louange est le Père. Alors il y a toujours un sens au nom hébreu. Nous, nos noms, ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire pour moi, en ce qui me concerne. Mais toujours est-il qu'il y a un sens dont la louange est le Père. Et je crois que ce que nous avons besoin de comprendre et de réaliser, c'est que notre vie doit être avant tout une vie de louange, une vie d'adoration, une vie de reconnaissance, de gratitude, mais alors à déborder. Alors, je dis que par contrepoids ou contre-coup, si nous passons toute notre vie et notre temps à geindre, à nous plaindre, à être mécontents ou à maugréer des autres et de notre sort, il y a de fortes probabilités que jamais nous ne serons des vainqueurs. Ça, c'est la première vérité. Mes frères et sœurs, on est appelés à prendre en considération non pas ce que nous n'avons pas, ce qui nous manque, mais ce que nous avons. On est d'accord ? Il y a trop de gens qui se plaignent. Il y a trop de gens qui sont en train de se regarder en disant « Ben oui, mais si c'était, si j'avais, si je pouvais... » Non, c'est pas comme ça que ça marche avec le Seigneur. Je regarde ce qu'il m'a donné, ce que je suis devenu, et je le bénis et je le loue. Nos louanges devraient être encore beaucoup plus brûlantes, vibrantes et ardentes dans nos cultes et dans nos autres réunions. On devrait être à se bousculer les premiers à ouvrir notre bouche et à dire « Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton salut » parce que ça commence par là, hein. Faut pas l'oublier. « Merci pour la régénération que tu me donnes. Il y a des combats et des luttes, mais Seigneur, je veux continuer et je poursuis. Puis merci pour tout le reste. » Alors, Éude portait un nom quand même évocateur, parce que finalement, eh bien, c'était tout simplement eh bien là, l'expression d'un homme dans son nom, en tous les cas, eh bien, d'une vie de reconnaissance et de louange et de gratitude vis-à-vis de Dieu. Et s'il y a peut-être une guérison à opérer, en tous les cas, que le Saint-Esprit opère une guérison, c'est que nous cessions de regarder finalement au négatif pour nous focaliser sur le positif. Ah oui, c'est terrible cela. Bien sûr, nous avons tous une vie où nous avons souffert, où nous souffrons, où nous avons des problèmes, mais oui, ça c'est sûr, hein, c'est évident. Mais la foi doit nous donner de dépasser ces clivages et aller beaucoup plus loin et regarder plus haut, regarder vers le Seigneur. Alors si nous comprenons ça, eh bien nous allons changer. Le Seigneur va nous aider à changer parce que nous ne voulons pas être des vaincus. Nous ne voulons pas être des gens qui marchons en nous traînant, la tête dans les épaules en disant « Oh, qu'est-ce que la vie est dure !» C'est vrai qu'il y a des augmentations, ça j'en conviens. Mais quand même, on va quand même passer par-dessus tout ça, hein, et on vivra. Et on vivra par la grâce de Dieu, en le bénissant, en le louant. Dans les temps qui viennent, il va falloir être à regarder vers, de plus en plus vers Dieu. Hein, et à nous substanter, je dirais, de sa parole, de sa communion, de sa présence, et de vivre ainsi. Nous voulons être des vainqueurs, et Éude, par son nom même, nous indique comment il faut faire. Son deuxième secret, c'est la force spirituelle qui est conférée par la parole de Dieu. L'arme d'Éude nous est révélée à travers le verset 16. Il nous est dit qu'Éude se fit une épée à deux tranchants, longue d'une coudée, et il la ceignit sous ses vêtements au côté droit. Il s'est fait une épée. L'arme était une épée à deux tranchants. Et on va faire un petit rappel, il est très, très évident, me semble-t-il. Quand on ouvre le livre des Éphésiens, enfin l'épître aux Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 17, je prends un petit peu, il nous est dit parmi les armes, ayez à vos reins la ceinture, la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessous tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors il est bien question, plus question en tous les cas pour nous, de se promener avec une épée à notre côté, mais on en a une, elle est à deux tranchants. Elle est puissante. Et la description qui nous en est donnée, c'est dans le livre des Hébreux, je poursuis la pensée, dans Hébreux chapitre 1, 4 et au verset 12, il nous est dit que la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées des cœurs. La parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée. C'est ça la parole de Dieu. Et pour nous, c'est notre arme. Et ce que suggère, eh bien, Éude, se faisant fabriquer une épée, c'est ça. Et il faut que la parole de Dieu soit prêchée. Il faut que nous continuions à prêcher la parole de Dieu. Ça, c'est important. Parce que s'il n'y a plus cela, que restera-t-il ? Il faut qu'elle soit prêchée, mais il faut qu'elle soit pratiquée. Il faut qu'elle soit, en d'autres termes, vécue. C'est Jacques qui nous dit cela. Il faut qu'elle soit vécue comme telle. Et là, nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu. Pour que cette parole s'imprègne profondément à l'intérieur de nous-mêmes. Parce qu'elle est ressource, elle est énergie, elle est puissante. Elle a une puissance d'action ou une puissance de réaction spirituelle, cette parole. Et nous devons la vivre. Ça ne doit pas être tout simplement de la para, ou tout simplement une déclaration « je possède une Bible » ou « je connais la Bible ». Non, ça va beaucoup plus loin que la couverture. Ça va profondément. Et cette épée est véritablement, l'épée d'Éude, c'est véritablement là, eh bien, l'image, l'illustration de la parole de Dieu. Je dirais que la parole de Dieu, pour les chrétiens, c'est la substance nutritive de la foi et de nos âmes. Qu'est-ce qu'il va nous rester ? Des illusions ? Des traditions ? Des rudiments ? Peut-être chrétiens ? Mais on ne vit pas avec ça. On vit avec autre chose, on vit parce qu'on se nourrit de la parole de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui doit être au fond de notre cœur, comme un besoin, comme une aspiration profonde. Ce n'est pas un devoir, ce n'est pas une obligation, c'est une nécessité, C'est un délice, c'est une délectation. Je lis la parole de Dieu parce que, vraiment, j'en ai besoin, j'ai faim. J'ai faim de cette parole. Dans le psaume, si vous voulez, peut-être on peut étayer encore cette pensée, dans le psaume 78, il est dit ceci, je cite, au chapitre, enfin, ce psaume 78, verset 1er, « Mon peuple écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sententes et je publie la sagesse des temps anciens. » Et au verset 24, lorsque je reprends beaucoup plus loin dans ce texte, « Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, il leur donna le blé du ciel. » Alors la manne pour nous, vous savez ce que c'est? Et le blé du ciel, eh ben, c'est la parole. Mes frères et mes sœurs, les jeunes, ne négligez pas de vous nourrir de la parole du Seigneur. C'est une épée à deux tranchants. Parce qu'elle est puissante. Et Éhud nous livre ce deuxième secret. Troisième secret, c'est la force d'une vie spirituelle bien établie. Mais elle sera établie parce que nous avons ce sentiment de croire dans le Seigneur et de le louer, et de le bénir et de l'adorer. Nous aurons cette vie bien établie parce que nous avons la parole de Dieu et nous en faisons quelque chose. Mais le troisième secret, c'est, donc je le rappelle, c'est la force d'une vie spirituelle bien établie et équipée. Le verset 16, à la fin du verset 16, il nous est dit que cette épée avait été longue d'une coudée et il la saignit sous ses vêtements au côté droit. Il la saignit sous ses vêtements du côté droit. Rien n'est écrit au hasard. Éhud a porté son épée sous ses vêtements. Non pas dessus, mais dessous. Et cela suggère peut-être quelque chose d'important pour nous. Quels vêtements portons-nous? Alors on s'est mis, comme on dit sur son 31 aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on dit ça comme ça. 32, 34, enfin bon, vous choisissez le chiffre que vous voulez. Mais toujours est-il que la question qui nous est posée, c'est quels vêtements portons-nous? Est-ce que ce sont des vêtements d'apparence, de superficialité, de ce qui frappe les yeux? Mesdames, vous êtes bien et vous avez raison d'être coquettes. Et c'est quelque chose. Est-ce que ce sont de simples attirances, nos vêtements, sans étoffe? Vous voyez ce que je veux dire? Sans étoffe. Mais souvenons-nous de la réflexion de Jésus aux pharisiens, qui eux avaient tout mis à l'extérieur et rien à l'intérieur. Ce que Jésus va leur retourner, « Ah, vous nettoyez la coupe, vous la nettoyez à l'extérieur, pas de problème, elle brille. Vous l'astiquez en quelque sorte, mais à l'intérieur c'est de la rapine, du vol et toutes sortes de méchancetés. » Donc ce qui est important, c'est de savoir de quoi nous sommes vêtus. Nous devons avoir de l'étoffe. Ou est-ce que nous sommes revêtus du vêtement de la vie de l'esprit? C'est à l'intérieur de nous-mêmes, mais ça déborde à l'extérieur, ce vêtement-là. Ou on n'est jamais nu lorsqu'on est rempli de l'esprit. On n'est jamais creux, on n'est jamais vide. Et c'est davantage qu'un voile vaporeux. Nous avons besoin d'être revêtus de quelque chose qui vraiment, eh bien, représente le Seigneur. Nous avons besoin d'être habillés et nous avons besoin d'être habités dans les deux sens du terme, recouverts et enveloppés de la vie de Dieu, parce que c'est son esprit en nous. Et si l'esprit de Dieu est en nous, il y aura aussi tout un rayonnement extérieur. Alors après, on va parler de l'épée, mais il faut qu'il y ait cela en priorité. Il faut qu'il y ait cette vie puissante, cette vie dominante, cette vie rayonnante. Alors, en fait, d'habillage, nous avons aussi, et nous sommes aussi conviés à être revêtus de la prière. Ouais, vêtements de la prière. Un homme, une femme qui prie, c'est quelque chose d'important. De prier en couple, je le dis à chaque fois. De trouver un petit moment dans la journée, quand les choses sont possibles, mais de trouver un moment pour être ensemble, nous recueillir ensemble, prier, partager, combattre, lutter ensemble. Ça, c'est essentiel. revêtu de la prière, drapé de la connaissance de la parole. C'est ce que nous avons dit dans le deuxième secret. Et puis, également, revêtu d'intensité et de la communion céleste. Alors, ça sera notre vêtement. Vous avez remarqué que dans la Bible, il est question de vêtements. Hein. Paul nous parle d'être revêtu et non pas nu. Et puis, bien d'autres textes comme ça qui suivent. On arrive au quatrième secret. Il est déroutant. Oui, à vrai dire, il est assez déconcertant parce que c'est la force dans la faiblesse. Et ça, on n'aime pas ça parce qu'on voudrait être toujours fort. Seigneur, si j'avais une bonne santé. Seigneur, si j'avais pas tous les ennuis que j'ai, eh bien, je te servirais, je ferais ceci, je te louerais, je te bénirais, je ferais toutes sortes de choses. Mais comme je suis un petit peu déficient par certains aspects de ma vie, physiquement, peut-être économiquement ou moralement, alors tu sais, tu peux peut-être en attendant choisir quelqu'un d'autre. Non. La véritable force, elle se trouve dans la faiblesse. Et vous avez remarqué, Ehud était gaucher. Non. Je me trompe. Je ne sais plus ma droite et ma gauche. J'ai quand même eu mon permis de conduire, hein, je vous signale. Alors, il était gaucher. Mais par contre, cela lui donnait l'avantage de porter son épée à droite. Parce qu'imaginez-vous, alors, vous avez déjà combattu en duel, je suppose. Oui. Alors, imaginez-vous que vous êtes gaucher, c'est bien cette main-là. Vous mettez ici, par exemple, sur côté gauche, ben, vous ne me voyez pas, hein, mais bon, je vais me déplacer un peu, mais il ne faut pas que je m'en aille de trop. Alors que c'est très difficile de prendre une épée de cette manière, ou de la droite, c'est pareil, quand elle est du même côté. Parce qu'il va falloir que vous repreniez, que vous ressaisissiez finalement, pour l'avoir bien en main. Mais si vous le faites avec, moi je pense comme ça, si vous le faites de ce côté-là, vous allez la mettre tout de suite directement et vous êtes droit. Et vous avez tout de suite l'ennemi en face, du bon côté, sans reprendre l'épée en main, sans la ressaisir. Il y a le côté, et là, à ce moment-là, vous pouvez vous défendre immédiatement. Ça lui donnait justement l'avantage. Dans le psaume, en ce qui concerne justement ce maniement des armes, dans le psaume 16, écoutez ce qu'il nous est dit au verset 8. « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » C'est bon d'être du bon côté, hein ? Enfin, surtout du côté du Seigneur. Hein ? « Je ne chancelle pas. » Et puis, nous voyons que, en conséquence, pour lui, pour Ehud, c'était l'obligation de s'appuyer uniquement sur la symbolique, mais non moins efficace droite de Dieu. C'est ce que nous dit le psaume. Et un autre psaume nous le dit, par exemple, au verset 18, dans toujours ce livre, hein, qui est assez évident dans ce qu'il nous enseigne, au verset 18, au chapitre 18, pardon, au verset 36, il est dit ceci, « Tu me donnes le bouclier de ton salut. » Ça revient à ce que Paul dit dans Éphésiens. « Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté et tu élargis le chemin devant moi. » La droite de Dieu. C'est pas pour rien que les choses sont écrites. Et permettez-moi d'ajouter ceci, mes frères et mes sœurs, c'est qu'il y a parfois quelques avantages à être naturellement désavantagé. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Hein. Enfin, je vous le dis quand même. Ouais. Est-ce qu'on aimerait bien être bien en tout ? Être bon en tout ? Être agile ou capable en tout ? Mais je répète, il y a quelquefois des avantages à être naturellement désavantagé. Vous savez que cela peut ouvrir la porte au miracle. Parce que premièrement, ça nous enlève notre propre force de compter sur nous-mêmes, mais de compter uniquement sur le Seigneur. Vous souvenez de l'histoire des disciples après la résurrection? Oh, ils étaient bien malheureux parce que ils avaient suivi Jésus pendant longtemps, enfin pendant 3 ans, et puis ils l'avaient vu crucifié. Ils l'ont vu ressusciter, ils l'ont vu apparaître, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et dans Jean chapitre 21, alors qu'ils avaient été à la pêche pendant toute une nuit, ça aurait dû les inspirer à réfléchir et à penser, à se souvenir. Et là, alors qu'ils ont été à la pêche, ils étaient découragés, ils étaient complètement démoralisés. Hein. Voilà, ils étaient vraiment désavantagés. Hein. Pourtant, ils avaient emmagasiné tellement de visions, tellement de paroles, tellement de choses extraordinaires dans cette compagnie de Jésus, qu'ils ne savaient plus où ils en étaient rendus à ce moment-là. Alors, ils se sont mis à repartir à la pêche, certainement sous l'inspiration de Pierre. Et nous voyons qu'à un moment donné, il nous est dit, le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, ressuscité naturellement. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il leur répondit non. Et il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Je dis quelquefois nos désavantages. Eh bien, ne les regardons pas comme des désavantages, mais les regardons comme parfois des tremplins sur lesquels eh bien, Dieu nous conduit pour justement eh bien, toucher au miracle et à la grâce de Dieu. Ouais. Ça, c'est une vérité, c'est une réalité qui nous est donnée. Cela peut ouvrir la porte du miracle du côté droit. C'est quand même curieux, Jésus n'a pas dit du côté gauche, il a dit du côté droit. Vous allez me dire, les poissons étaient en dessous sous la barque aussi. Mais toujours est-il que c'est le fait même, le bon côté. Alors, on a parlé de ne pas geindre et de ne pas se plaindre tout à l'heure, dans ce premier secret livré par Éhude. Eh bien, mes frères et mes sœurs, je crois que nous-mêmes, ne nous apitoyons pas trop sur nous-mêmes, parce que nous avons le Seigneur et lui va nous aider à passer nos handicaps et à dépasser nos complexes, à dépasser peut-être tout ce qui nous invalide et nous paralyse et nous rend profondément malheureux, parce que si nous avons le Seigneur de notre côté, eh bien vous verrez que les choses vont changer. Et on s'en souvient de cette parole de Paul, parce que lui aussi était un grand homme de Dieu, et lui aussi avait fait des expériences, et lui aussi peut nous donner ses conseils. Quand dans 2 Corinthiens, lui-même appelé à une grande mission, hein. L'action de Paul était quelque chose de considérable. Mais au chapitre 12 et au verset 7, et il dit ceci, étant donné qu'il avait reçu des révélations extraordinaires et formidables, il ajoute, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'était mis une écharpe dans la chair. Il était désavantagé, c'est vrai. Paul était un homme qui avait des problèmes de santé ou autre, mais une écharpe dans la chair pour m'empêcher de m'enorgueillir. Et alors il a prié 3 fois, dit-il, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est ça le secret d'Éhude. C'est que quand nous sommes forts, quand nous sommes faibles, c'est là pour Dieu que nous sommes forts. Que nous sommes forts. Alors il dira, il en tira cette conclusion, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous savez, si on pénètre bien l'esprit de l'Évangile, on comprend qu'il y a des choses hein, quand même. On est loin de ce que nous avons été, de la manière dont nous avons été peut-être éduqués ou formés, enseignés dans les rudiments de ce monde, de la manière dont le monde attend les choses. Un chrétien, eh bien, il va prendre un chemin peut-être beaucoup plus seul, beaucoup plus solitaire. Mais il aura quelqu'un de plus grand, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors mes frères et sœurs, je crois que nous avons besoin, même si quelquefois nous nous sentons désavantagés par certains côtés, eh bien avec la grâce de Dieu, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le Seigneur veut nous conduire et nous former. Il va nous prendre à son école pour que nous soyons tout autres, avec un autre état d'esprit, avec un autre cœur, de notre façon de raisonner. Cinquième ultime secret d'Éhude, c'est la force dans la croix, et qui est illustrée par le nom qui est cité, Gilgal. Il nous est dit qu'il est parti de Gilgal. Et Gilgal signifie action de rouler. Oui, action de rouler. Et je crois que vous savez que notre vie passée a été roulée. Hein. Nous avons été finalement emportés par le flot salvateur. Et que tout ce que nous étions auparavant, ce qui fera dire à Paul, les choses anciennes sont passées et maintenant tout est devenu nouveau pour nous. Donc Gilgal, ça veut dire action de rouler. Et c'est là où a lieu la première circoncision ou une des circoncisions d'Israël. C'est-à-dire la marque, l'appartenance, où les Israélites, les hommes, ont été marqués dans leur chair. C'est l'image de la croix. C'est l'image de la mort à soi-même. On en parlait vendredi soir pour ceux qui étaient là. Et pour être un vainqueur, le point de départ sera toujours Golgotha. C'est pas ailleurs. C'est pas autrement. C'est pas autre chose. C'est la croix, c'est Golgotha. C'est la révélation de notre salut. C'est la révélation de notre Sauveur. C'est la révélation de notre perdition. C'est la révélation de ce que Jésus a accompli pour nous. Et nous restons et nous partons de ce point-là. Et lui, il est parti de Gilgal. La croix où Jésus a donné sa vie et a triomphé. Et c'est là où sont toutes nos victoires. Ce n'est pas nous, ce n'est pas nos méthodes, ce ne sont pas nos recettes, ce ne sont pas nos pensées, mais c'est Jésus. Et là où véritablement la victoire a été remportée. La clé de toute victoire, là où on peut prononcer le tout accompli et parfaitement de Christ, eh bien, c'est véritablement sur ce quoi nous devons nous reposer. Et nous devons véritablement suivre son exemple, c'est-à-dire mourir, renoncer à nous-mêmes, renoncer à soi, renoncer à ses idées, à nos idées, à nos prétentions, à nos péchés, à nos idéaux humains. Ils sont très nombreux dans l'Église du Seigneur, hein, nos idéaux qui restent humains. C'est-à-dire crucifiés avec Christ, hein, et qui fera dire et qui fera écrire à Paul aux Galates, hein, « Si aujourd'hui je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ma vie ancienne a été roulée. Elle a été complètement emportée par le flot salvateur. Alors, non seulement elle a été roulée, mais c'est là où j'ai été circoncis de cœur, à cause du sacrifice de Jésus. Nous en arrivons au sixième secret, si vous voulez. Ce qui fait agir et qui donne courage et détermination, c'est la foi. On n'en a pas parlé jusqu'ici, la foi. Éhud, était un homme de foi. Le verset 20 nous dit, à un moment donné, je relis, que je retrouve, Éhud l'aborda, il aborda son ennemi, on va en parler, l'aborda comme il était assis seul dans la chambre d'été, et il lui dit, j'ai une parole de Dieu pour toi. Quand il était assis seul, son ennemi, nous voyons que Éhud va avoir le courage d'aborder Eglon, le roi, celui qui est à l'origine de la coalition contre Israël, mais il va l'aborder seul. Et Eglon veut dire jeune taureau. Bon, vous en ferez ce que vous voudrez. Mais ce qui montre bien, c'est que c'était un homme. Il était fort et intrépide. Ou enfin, en tous les cas, il l'a été, je ne sais pas. Et ça veut dire aussi cercle. Eglon, ça veut dire cercle. C'est-à-dire enfermé dans un espace où l'on trouve, où l'on tourne en rond sans pouvoir s'en sortir. Eh bien, c'est exactement ce qu'il représentait pour Israël. Eglon, le roi de Moab, avec tous ses acolytes, était un homme qui avait enfermé Israël dans un cercle, dans un carcan, dans tout simplement une occupation du pays, et sans que les Israélites pouvaient s'en sortir. Il portait bien son nom, hein, ce dominateur, qui était Eglon. Or, toutes les victoires se remportent au préalable, loin de la vue des autres. Et Éhud y est allé seul. Il est allé seul pour rencontrer le roi, seul. Seul à seul, en quelque sorte. Il est allé vers son ennemi, face à face, en solitaire. Ça, c'est le courage de la foi. Sans soutien humain et sans crier victoire à l'avance, pour impressionner, pour s'impressionner ou s'auto-encourager. Nous avons des victoires à prendre. Ce n'est pas la peine de les crier sur les toits avant qu'elles soient remportées. Vous connaissez le proverbe. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours. Vous connaissez ça, hein? Avant de l'avoir tué. Eh oui. Et quelquefois, on est en train de développer, sous une forme de un certain christianisme, une certaine de foi, qui proclame les choses avant qu'elles ne soient faites. Mais mes frères et sœurs, que de confusion, que de contradiction, et quel témoignage nous laissons quand les choses ne se pensent pas comme nous l'avons annoncé. Ça se vit à l'intérieur, ça se vit dans notre communion avec le Seigneur. Solitude des hommes de Dieu avant les combats. Jacob, qui va se retrouver seul à Péniel, il lutte, mais il lutte seul. Tout le monde l'a laissé, mais enfin bon, lui il avait besoin de prendre une leçon. Hein. « Je ne te laisserai aller, dira-t-il à son ennemi, que tu ne m'aies béni. » Détermination et courage, foi. C'est l'histoire de David, hein, devant affrontant Goliath, Tout le monde lui dit, mais tu es un enfant, tu es un petit garçon. Et qu'est-ce que tu veux faire avec un homme de guerre comme Goliath? Même nos vaillants soldats d'Israël sont même pas capables de l'affronter. Alors toi, qu'est-ce que tu veux faire? Il était seul. Même le roi lui a dit, écoute, hein, je vais te donner mon armée, mon épée, mon armure. Pauvre David, il dit, moi je veux pas de tout ça. Hein. Ah oui. Jésus dans le désert, il était seul. À Gethsémané, il était seul. Et à Golgotha, il était encore seul. Et nous, lorsque nous menons des combats et des luttes, eh bien, quelquefois, nous sommes souvent seuls, devant et dans la présence du Seigneur. Et méfions-nous de proclamer des choses avant qu'elles ne soient faites. Je proclame devant Dieu, je proclame devant les âges de Dieu, je proclame devant les puissances et les autorités mauvaises devant le Seigneur, mais attention par rapport aux hommes, parce que je risque de passer pour un fanfaron. Vous savez, on vit dans une société où il y a beaucoup d'effets d'annonce. Et ça, c'est terrible. En politique, en toutes sortes de choses. On annonce parce que ça nous donne un petit peu une mise en valeur. On se dit, ben voilà, je sais. Mais qu'est-ce que l'on sait? On sait que Dieu est tout-puissant et que nous, nous ne sommes rien. Nous sommes, eh bien, comme Guéra, nous ne faisons pas le poids, vous comprenez. Nous sommes que des petits grains, pourvu qu'il y ait de la foi dans le grain de sénévé. C'est surtout ça. L'apprentissage des victoires se fait dans le secret de la prière, souvent seul, isolé dans la présence de Dieu, ce qui fera dire à Jésus dans cette belle parole du sermon sur la montagne, « Mais quand tu pries, va sur les places publiques et sonne de la trompette. » Non, ce n'est pas ça ce que Jésus a dit. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. » Mes frères et mes sœurs, ça se passe comme ça. Ça se passe de cette manière, dans le seul à seul. Et Dieu, là, c'est pas Aiglon, hein, c'est pas mon ennemi, au contraire, c'est mon ami. Toute mise en avant de ce que l'on est, de ce que l'on fait, ce prétendu « m'as-tu vu », vous savez, qui a tant de succès aujourd'hui, toutes ces attitudes ostentatoires pour être remarquées ruine les victoires en préparation, parce que ce n'est que de la vanité, de l'orgueil, ce n'est pas de la foi. Ou je dirais même, quelquefois, c'est même de la témérité, mais ce n'est pas de la foi. Dernier point, je vais finir. Dernier secret d'Éhude, c'est la force de l'exemple. Et je lis simplement deux derniers versets. Dès qu'il fut arrivé, verset 27, dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne, d'Éphraïm, les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne et il se mit à leur tête. Et il leur dit, suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. Et ils descendirent après lui, s'emparèrent des guets du Jourdain vis-à-vis de Moab et ne laissèrent passer personne. Éhude terrasse Aiglon de la manière dont vous avez lu ensemble, je ne reviens pas sur la manière dont il a fait les choses. Mais bon. Aiglon, l'ennemi d'Israël. Et il va le terrasser, il va le vaincre seul. Et avec, pour seul courage, son seul courage, il entraîne, après avoir détruit son ennemi, il entraîne avec lui, derrière lui, tout Israël pour le combat final. Il commence à sonner de la trompette. Ensuite, tout le monde descend de la montagne pour se mettre, finalement, eh bien, après les Moabites, les Ammonites et les Amalécites. Il fait un appel, il leur dit, suivez-moi, appel de ralliement. Et nous voyons que cela, sa valeur, c'est la valeur de l'exemple. Et ce que nous pouvons retenir d'Éhude, c'est que c'est un homme qui a la foi et il est courageux. Et nos victoires personnelles, secrètes, augurent souvent des victoires publiques, des victoires générales et des victoires collectives. Ça commence par quelque chose. Vous vous souvenez de Jonathan, dans 1 Samuel chapitre 13 ou chapitre 14? Il est monté tout seul avec son compagnon, son écuyer. Et c'est comme ça qu'il a donné la victoire. Alors il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui bouge. Hein. Il faut bien qu'il y ait un homme ou une femme de foi quelque part qui va ouvrir la porte pour les autres. C'est comme ça. Hein. Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il a marché devant nous. Et nous continuons à marcher derrière lui. Suivez-moi. Venez à moi et suivez-moi. Il le dit souvent. Eh bien, dans la libération peut-être de certaines situations, il y en a un qui va bouger. Il y en a un qui va être courageux. Il va y avoir un élude. Et là, il va... Derrière, il appellera finalement tous les autres qui vont le suivre pour mener eh bien, le reste du combat. Ça se déclenche, il y a un déclencheur. Vous connaissez ce que nous dit le prophète dans l'Ancien Testament. Il nous dit « Je cherche un homme qui se tienne sur la brèche et intercède en faveur du pays. » Je cherche un homme. Mes frères et mes sœurs, d'une manière ou d'une autre, mais particulièrement par la prière et par votre consécration et votre don de votre vie au Seigneur, il y a des brèches qui ont été ouvertes. Il faut qu'elles s'agrandissent. De libération, de guérison, de grâce, de salut. Je cherche un homme. Et ils s'emparèrent des guets du Jourdain. Il y a deux leçons, simplement et brèves, qui en découlent. S'emparer d'un lieu stratégique donne l'idée d'un coup de force, d'un assaut audacieux. C'est ce qui va se passer. Ici, il est question du Jourdain, lequel ne peut être franchi en temps de crue au risque de se noyer, surtout quand il s'agit d'une armée, mais possible que par des guets. Des guets, vous savez ce que c'est ? La foi d'Éhud apparaît comme un guet, permettant le franchissement de tous les obstacles réputés impossibles à surmonter. Eh bien, Dieu va mettre des guets pour traverser nos mers rouges et nos Jourdains. Il faut savoir les discerner, il faut savoir passer ces guets. Et le guet, c'est la foi. Oui. Des choses qui sont réputées infranchissables, insurmontables, qui sont bien plus... qui dépassent notre imagination et qui quelquefois nous effraient et nous terrorisent. Alors Dieu va ouvrir un guet pour que nous passions. Ça, c'est la première leçon. La deuxième, c'est que s'emparer d'un guet, c'est ensuite contrôler le passage et empêcher l'ennemi d'envahir tout à nouveau le pays. Et quand on a pris une victoire, il faut se maintenir sur la victoire, il ne faut pas nous la laisser voler. Et il y en a un qui nous la volera toujours. Il va nous faire triompher quelques instants et après il va nous confondre. Il va nous amener dans la confusion. Mais les Israélites, quand ils ont pris les guets du Jourdain, ils sont restés là. Et il nous a dit qu'ils empêchaient tout le monde de passer de Moab pour venir en Israël. C'était terminé. Et il y a des victoires dans lesquelles nous devons nous maintenir. Et nous voyons qu'il y a des victoires défensives, des victoires offensives et des victoires préventives. Ils avaient eu l'offensive à travers Éhud. Ensuite, toute l'armée d'Israël a vaincu ses ennemis. Mais après, ils se sont dit, non, ils ne repassent plus. Hein. Et bien, quand on a appris certaines leçons, on ne laisse plus l'ennemi faire. Tout simplement, on a barré la route, on est sur le guet, et aux aguets, si vous voulez. La conclusion... je la tiens de ces deux choses, deux versets, qui suggèrent et qui nous amènent à observer et à comparer ces deux versets, pour le premier pour cause de désobéissance. Le verset 14, je vous le rappelle. « Les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Moab. » Le deuxième verset que nous allons comparer, c'est le verset 30. « Le pays d'Israël fut en repos pendant 80 ans. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais là, c'était pour cause de miséricorde divine. La première fois, c'était la désobéissance, où ils ont été, eh bien là, asservis, occupés pendant 18 ans. La deuxième fois, pour cause de miséricorde divine, ils ont été tranquilles pendant 80 ans. C'est-à-dire, la grâce de Dieu est multipliée par 4. C'est formidable, ça, hein ? Vous réagissez, non ? Je voulais savoir. Par 4 ! Multiplié par 4. Ils ont été asservis 18 ans et libérés et en paix pendant 80 ans. Le livre des Hébreux nous dit que Dieu nous donne des leçons et il nous apprend. Et parce qu'il nous apprend, parce qu'il nous donne certaines instructions et éducations, c'est parce qu'il nous reconnaît comme ses enfants. Autrement, il nous laisserait tomber. Il ne s'occuperait pas de nous. Ça, c'est Hébreux qui nous dit ça. Et il nous est dit que quand nous apprenons bien la leçon... alors à ce moment-là, c'est pour nous un fruit paisible de justice. C'est quelque chose de bon. Et on ne va pas se révolter, on ne va pas se courroucer en disant « Mais oui, mais c'est pas normal, je ne suis pas content, je ne suis pas encore content, je ne serai jamais content. » Oui. Mais quand on a bien compris les leçons spirituelles, on dit « Seigneur, c'est toi qui avais raison quelque part. » Ouais. L'éducation divine appliquée à nos vies ne consiste pas seulement en délivrance ou à vivre en paix, mais à nous dévoiler les secrets de la victoire spirituelle. Et je les rappelle brièvement avant de terminer, les secrets de la victoire spirituelle, c'est d'être des hommes et des femmes dont la louange se tourne vers le Seigneur. C'est aussi être convaincu de la véracité de la parole de Dieu et de la vivre et de nous l'appliquer. C'est être bien équipé dans les combats, ne pas être nu, creux et vide. C'est aussi la force dans la faiblesse, ça ne faut pas l'oublier. C'est la croix où tout commence dans nos victoires. c'est la foi et c'est l'exemple. Voilà le secret, voilà les secrets d'Éude. Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous donne sa grâce et que ainsi nous puissions véritablement aller de l'avant. Merci Seigneur, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que ce sont des textes tout simples. Tout simples, c'est vrai, mais où il y a véritablement un sens, une signification profonde pour nos vies. Seigneur, dans le nom de Jésus, donne-nous d'être des Éudes. Donne-nous, même si nous ne faisons pas le poids, même si nous ne représentons qu'un petit grain, mais si c'est un grain de sénévé, alors à ce moment-là, nous pourrons déplacer des montagnes. Seigneur, tu nous apprends la sagesse de Dieu. Tu nous apprends pourquoi l'éducation, en effet, nous est appliquée. Parce que tu ne veux pas que nous soyons dominés, que nous soyons asservis, mais tu veux que nous soyons des vainqueurs. Et quelle comparaison y a-t-il entre nos souffrances du temps présent et la gloire qui nous est réservée pour l'éternité. Éude et le peuple d'Israël a été asservi pendant 18 ans, mais il était libre pendant 80 ans. Alors Seigneur, tout ça ce sont des chiffres limitatifs, mais toi, tu ne veux pas qu'il y ait de limite dans notre vie. Tu veux que nous allions toujours de l'avant, que nous puissions grandir, que nous puissions nous développer, et ainsi, véritablement, là, te glorifier par notre foi. Merci Jésus, merci pour ta grâce. Amen. Amen.